Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là ce matin et de revoir des collègues. Et j'ai été passionnée par ton exposé, Gilles. Donc, je vais revenir vraiment sur quelques éléments qui visent évidemment à lancer la discussion. C'est une des réactions à chaud, donc vous me pardonnerez le caractère peu structuré du propos. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de lancer un débat en donnant peut-être quelques pistes. Donc moi j'ai beaucoup apprécié le propos qui caractérise d'ailleurs tes travaux hein, dans pas mal de publics, ce regard que tu qualifies d'externaliste ou à rebours d'une certaine tendance de la recherche française sur la participation hein, où on a souvent une forme de myopie procédurale. On va analyser les dispositifs en faisant abstraction du système social et politique dans lequel ils s'inscrivent. Là, il y a vraiment cette posture en vue d'éviter ce regard hors sol et de les replacer dans les enjeux et la substance des enjeux ici en matière d'eau et notamment d'accès à l'eau potable. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors, je voudrais revenir sur la question des contours et des échelles de la participation en matière de développement durable. Également, je voudrais aborder le rôle de certains acteurs et revenir sur la conclusion à faire sur cette question que tu soulevais, au fond, est-ce qu'il y a vraiment une contradiction entre ces deux injonctions ? Donc très, très rapidement, en ce qui concerne les contours et échelles de la participation en matière de développement durable, donc moi ce que j'ai compris en termes de conception de la durabilité qui est en œuvre, hein, c'est que tu nous décris des contextes où on a une approche finalement, sans que soit très explicité la définition qu'on retient du développement durable, de soutenable, quelle conception on est. En tout cas, on a l'impression qu'on a à chaque fois un accès où on va privilégier un des piliers, hein, pour le dire très schématiquement, donc une durabilité en termes d'accès à l'eau potable, durabilité en termes d'inclusion sociale, d'un secteur productif et d'une population sociale, durabilité au sens de la qualité de l'eau, donc une approche partielle qui reprend cette définition en trois piliers qui a été beaucoup discutée, qu'on a tendance aujourd'hui à considérer qu'il faut dépasser, puisqu'on voit bien comment la question est comment on articule les trois piliers, comment on arbitre entre ces trois piliers dans des contextes précis de décision, et de nombreux travaux ont bien montré que les outils, les instruments d'action publique conduisant à mettre un petit peu tous les acteurs autour de la table, hein, une forme d'action collective institutionnalisée, courait bien souvent le risque, en laissant jouer à plein les rapports de forces sociaux, hein, d'aboutir à des décisions au détriment de l'environnement. Ces espaces-là risquaient quelque part de consacrer un certain état du rapport de force et donc d'aboutir à des arbitrages qui se feraient très rarement au nom de l'environnement. C'est notamment un papier de l'ASCOUM dans les années 80 sur les arbitrages légitimes en matière d'environnement dans ces arènes qui se développent à partir des années 80. Donc, je voulais savoir si, à partir de là, toi, tu avais pu forger, alors c'est pas forcément ton propos, hein, mais une réflexion sur la conception de cette notion de développement durable et la définition qu'on pourrait en proposer d'une manière opératoire dans une analyse des politiques publiques. En d'autres termes, plus simplement, est-ce que tu le considères comme, mais je pense que je connais déjà la réponse, comme une catégorie d'analyse ou plutôt un objet d'analyse? On a bien l'impression d'être en présence d'un slogan, et je vais y revenir, à une dimension performative dans le recours à cette notion sur laquelle on peut disserter et travailler à longueur de réunion sans vraiment savoir ce qu'on entend par là et sans travailler la question d'une définition commune, au fond, de ce qu'on entend par développement durable. Alors, en termes d'échelle, une caractéristique quand même importante de la participation appliquée au développement durable, ça me semble, cette idée qu'il faudrait dépasser, décloisonner les circonscriptions administratives traditionnelles, introduire de la transversalité. On a aussi ça, y compris dans les services des collectivités ou des organisations. Hein. Et donc, tu nous montres bien comment cette volonté de mettre en place de la transversalité, même si je ne crois pas que tu utilisais le terme, bute sur du déjà là. On essaie de travailler à partir d'un territoire où on va avoir trois États fédérés, mais on continue à travailler par État fédéré dans l'exemple brésilien. Donc cette difficulté à la fois à définir ce qui serait, s'il existe un échelon territorial optimal, hein, une forme d'optimum territorial, mais surtout à le concrétiser dans les pratiques et le quotidien du travail des acteurs sociaux. Sur cette question des échelles, je voulais simplement t'inviter peut-être à nous donner la vision que tu as de ça. Quelle conclusion on peut tirer de cette approche, le regard comparatif que tu as, que je trouve extrêmement riche, entre deux contextes nationaux et des territoires différents dans ces contextes nationaux. Quelle vision tu as, puisqu'on a quand même des contextes extrêmement différents, finalement, politiquement, économiquement, et on a l'impression d'avoir la même logique, les mêmes processus à l'œuvre, avec cette double injonction. Et donc, c'est toujours un questionnement, puisqu'on arrive à comprendre la genèse, l'émergence des dispositifs de participation et des politiques de développement durable en regardant sociologiquement comment ça se met en place dans chaque pays. Ce qu'on arrive moins à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a, semble-t-il, des processus macro à l'œuvre, puisqu'on retrouve les mêmes phénomènes dans des pays aussi différents que la France et le Brésil. Une jeune démocratie avec des difficultés en termes d'environnement, d'accès à l'eau potable, d'assainissement, qui n'ont rien à voir avec le contexte français, une organisation politique très différente. Un système d'ailleurs où les attentes à l'égard de la participation ne sont pas du tout les mêmes. En France, une des attentes à l'égard des dispositifs participatifs qui était de résoudre la crise de la démocratie représentative. Entendre ramener les citoyens aux urnes. Au Brésil, ce n'est pas du tout le même contexte. De toute façon, le vote est obligatoire. Donc, ce n'est pas du tout le même type d'attente. Il y a un lien avec les mouvements sociaux qui est différent. Donc, comment se fait-il? Et est-ce que, j'imagine, tu as pu réfléchir à cette question. Quels sont les processus macro qui permettent de comprendre qu'on retrouve cette même co-occurrence et lien, contradictoire ou non, entre développement durable et participation qui se développe à peu près à la même période dans tous les pays, à des degrés divers. Enfin, j'ai bien apprécié, et je me retrouve dans ta thèse, hein, selon laquelle on voit comment, finalement, cette participation, elle est marginalisée, elle est instrumentalisée, elle est contournée tout à la fois, elle aboutit finalement à renforcer le rôle de certains acteurs, de certaines élites, d'acteurs saillants. C'est le lieu de forme de militantisme institutionnel. Je me demandais, c'est vraiment lié aussi à la question de l'eau et de la gestion de l'eau. On entend souvent dire que c'est un secteur, hein, évidemment, où il y a aussi des logiques économiques et de concurrence entre opérateurs qui sont très fortes. Donc, j'imagine que tu l'as vu aussi jouer, y compris sur les questions de sécurisation de l'alimentation en eau potable, où on peut avoir d'ailleurs une tendance préserver des chasses gardées qui peut conduire à des surestimations des capacités nécessaires. Je pense que ce n'est pas le cas à Lyon, mais c'est le cas, je pense, dans l'agglomération parisienne, dans une certaine mesure. Bon, donc les opérateurs, dans ces différents cas que tu as pu étudier, comment ils se situent et comment est-ce qu'ils le jouent dans ce système? Et de la même manière, on entend souvent dire que les élus s'intéresseraient peu au sujet eau, justement parce que c'est compliqué, c'est contrôlé. C'est pas un sujet sur lequel ils ont vraiment des marges de manœuvre, d'où l'émergence de formes de mobilisation autour d'un retour à une gestion de l'eau en bien commun, hein, avec un mouvement pour défendre le retour en régie qui a pris une certaine ampleur en France. Donc, comment tu vois là aussi la dimension proprement politique de cette question de la gestion de l'eau, qui me semble importante pour comprendre comment les élus eux-mêmes vont se positionner dans l'utilisation, au contraire le désintérêt pour les espaces de participation, ou dans certains cas peuvent s'appuyer sur, par exemple, une conférence de consensus pour imposer dans une commune lambda, pour imposer au service un retour en régie, donc les élus. Et pour conclure, c'est tout simplement sur justement l'efficacité, au fond, de cette... tu nous dis, au fond, c'est un système décisionniste efficace. Est-ce qu'en termes... Donc là, je reviens au thème de l'atelier qui nous invite à penser en termes d'acceptabilité sociale. Oui, sociale. J'ai bien noté que c'était entre guillemets, donc on est invité, et tant mieux, à questionner la notion. Et du coup, est-ce que c'est efficace, si on... Je vais raisonner de manière très basique. Est-ce que c'est efficace en termes d'acceptabilité sociale? Est-ce qu'il y a de la contestation? Est-ce que ces logiques que tu décris, elles donnent lieu... les espaces de participation, est-ce qu'ils sont contestés, boycottés, critiqués? Ou est-ce que finalement on a une logique performative qui fonctionne à plein et qui fait que les décisions qui sont prises dans les quatre contextes que tu nous décris, au fond, parviennent à construire une impression de gestion participative, d'un développement qui est plus durable, et donc il y a une forme de consentement des administrés à l'action publique qui se construit.